Je vous remercie d'être venu ici, si nombreux. Je suis professeure de philosophie et donc les amis des jeudis en question m'ont demandé, comme à l'habitude, d'intervenir sur un sujet imposé. Voilà, je ne suis pas spécialiste de la question, mais comme je suis professeure de philosophie, on m'a dit « ce serait bien que tu parles de l'urgence ». Voilà. Et donc, c'est un exercice, une espèce de grand oral que je vais passer devant vous à la demande des amis. Alors, ce qui est extrêmement intéressant dans la demande qui m'a été faite, c'est que dans un premier temps, la proposition s'est faite très généralement sur l'idée du temps et c'était sur l'idée de la vitesse. Et ensuite, progressivement, le sujet tel qu'il a été formulé a glissé sur l'idée de l'urgence. Et donc, je me suis demandé, en essayant de construire le problème que je vais vous exposer rapidement et dont on débattra après, c'est est-ce que l'urgence se réduisait à la question de la vitesse et donc est-ce que l'urgence se limitait à la question du temps ? Quel était le rapport, finalement, entre cette notion d'urgence et cette notion de temps ? Parce que c'est pas aussi évident que ça. Alors, je reconnais que pour travailler mon grand oral, j'ai un peu travaillé dans l'urgence. C'est-à-dire, je me suis dit, comme je fais pas mal de trucs, je me suis dit, mince, pour ce soir, je n'aurai pas le temps. Vais-je y arriver ? Je suis obligée de travailler vite, de travailler dans la précipitation, et visiblement, la première idée qui m'est venue à l'esprit, c'est que le temps me posait problème. Alors là, j'étais parfaitement de mauvaise foi, puisque le sujet que l'on m'a donné à travailler, on me l'a pas donné hier, on me l'a donné il y a plusieurs mois, donc ce n'est pas du tout le temps qui m'a posé problème, en réfléchissant bien. Ce qui m'a posé problème, c'était la nécessité dans laquelle j'étais de répondre à une échéance. Donc vous voyez que là, je déplace légèrement la question. Tout d'un coup, j'ai été pressée par quelque chose, mais c'était peut-être pas vraiment le temps. Et si je disais que c'était le temps, j'étais pas vraiment de bonne foi. J'étais plutôt pressée par une contrainte, par une échéance, et mon problème était finalement plus matériel que temporel. Ensuite, je me suis dit, finalement, comment est-ce que les gens pensent l'urgence ? Alors, l'urgence, il y a plusieurs façons de la penser, et la façon qui nous vient assez immédiatement, et c'est la façon dont Jean m'a formulé le sujet lorsque j'ai eu le téléphone. L'urgence, donc, on la formule, comme je l'ai fait tout à l'heure, avec cette idée que nous n'avons pas le temps, ou avec l'idée que le temps, finalement, aujourd'hui, irait plus vite, ou que le temps s'accélérerait. Alors, je ne suis pas professeur de physique, mais je reviens un petit peu en arrière sur mes souvenirs de physique, l'idée, quand même, que le temps puisse s'accélérer, c'est, une absurdité. Hein ? Donc, visiblement, le temps me pose problème, mais le temps me pose problème d'une façon assez absurde. Cependant, ça n'empêche pas un certain nombre de personnes d'écrire des livres disant qu'effectivement, le temps s'accélère. Donc, lorsque l'on affirme que le temps s'accélère, on affirme quelque chose. Et moi, mon problème, ça a été essayer de comprendre, finalement, qu'est-ce que l'on peut bien vouloir dire, nous les êtres humains, lorsque nous disons que nous sommes dans l'urgence, que nous sommes pressés par le temps, que nous n'avons pas le temps ou que le temps semble s'accélérer. Alors, dans la bibliographie que tu as oublié de citer, tu as oublié Paul Virilio, dont je me suis, que j'ai pris en exemple, un des auteurs qui s'est spécialisé dans la question du temps, dans la question de la vitesse. Virilio, pour penser, donc c'est un philosophe, pour penser la question de la vitesse, la question, on va dire, de notre contemporanéité et finalement de cette, entre guillemets, de cette urgence, alors je la mets entre guillemets parce que pour l'instant, je suis à la recherche du contenu de cette urgence. Donc, pour penser notre rapport au temps, puisque lui, son problème, c'est d'inscrire la question dans le temps, donc à inventer, à travers, à côté des concepts traditionnels que l'on utilise pour penser le temps, qui sont les temps de l'histoire. Alors il y a l'histoire longue, l'histoire de la longue durée, hein, qui a été théorisée par Fernand Braudel, qui est un historien. À côté du temps événementiel, alors le temps événementiel, qu'est-ce que c'est? C'est le temps de la guerre 14-18, c'est le temps, on va dire, des événements qui marquent l'histoire. Lui, il a construit un concept du temps accidentel. Alors, le temps accidentel, pour lui, c'est un temps qui se réduirait à un instant, qui ne participerait ni au passé, ni au futur. Voilà, ce serait le pur instant, mais qui serait défini comme une espèce de négation du temps. Alors, je vais essayer de développer cette idée un peu étrange, de définir le temps comme négation du temps. En fait, donc, cette idée un peu étrange que le temps, que l'instant serait quelque chose qui serait profondément en rupture avec la continuité temporelle. Bon, il ne l'a pas, enfin, c'est pas arrivé comme ça, c'est quelque chose qui a déjà été formulé, par exemple, par Hannah Arendt au XXe siècle. Alors elle l'a formulé de façon très simple, elle a dit, eh bien, ce que Virilio appelle le temps accidentel, elle l'appelle le présent. Le présent, qu'est-ce que c'est? Le présent, pour Hannah Arendt, c'est cette espèce de non-lieu entre ce qui a été, le passé, et ce qui sera. Bon, mais il faut bien savoir que le présent, au moment où il est déjà plus. Hein, il n'est déjà plus là. Donc, Hannah Arendt définit le présent comme étant effectivement un non-lieu par excellence. Un non-lieu et qui pourrait peut-être, hein, donc elle, à ce moment-là, elle est dans la possibilité, alors que Paul Virilio, lui, considère qu'on y est. Alors, c'est ça le problème. Donc, qui pourrait peut-être ouvrir ce qu'elle appelle une brèche entre la fondation de la tradition et quelque chose qui serait un horizon du futur, qui serait un projet collectif vers lequel, eh bien, une société pourrait se représenter, se projeter, construire une utopie, construire quelque chose. Donc, le présent, c'est quelque chose qui est pris entre. Qui est pris entre et qui en même temps rompt avec le passé et le futur. Donc, pour Hannah Arendt, l'idée de ce non-lieu, hein, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose d'exceptionnel, c'est quelque chose qui, qu'elle considère pouvoir se réaliser que dans des moments exceptionnel du déroulement du temps. Ce sont des mouvements historiques dans lesquels, tout d'un coup, les hommes vont pouvoir inaugurer quelque chose de neuf. Donc pour elle, le présent, la créativité, l'invention, la rupture, c'est quelque chose qui inaugure quand même du positif. Pour Paul Virilio, c'est différent. Pour Paul Virilio, l'idée de cet instant qui n'appartient ni au passé, qui fait de nous donc des êtres déracinés, qui ne nous enracinons pas dans le sol d'une tradition et qui faisons que nous ne sommes pas capables de nous projeter dans le futur, de nous construire le temps, qui fait que nous sommes figés là dans cet instant, pour lui, c'est une réalité que nous vivons aujourd'hui. Hein? C'est pour lui, c'est ce que nous vivons dans notre rapport au temps lorsque nous disons que nous n'avons pas le temps ou que nous n'avons plus le temps. Hein? Ce que nous disons finalement, c'est que nous sommes dans l'incapacité, désormais, individuellement ou collectivement, d'habiter durablement le monde dans lequel nous sommes. Nous devenons en quelque sorte étrangers au monde que nous avons produit et dans lequel nous vivons malgré tout. Nous sommes dans l'incapacité d'habiter. Habiter, faut vraiment avoir l'idée d'un lieu d'accueil. C'est-à-dire que finalement, notre rapport au temps, notre rapport au monde fait que nous sommes en quelque sorte des étrangers au monde que nous avons produit et donc des étrangers à nous-mêmes. Voilà ce que dit Paul Virilio, hein, et pour lui, effectivement, ce qui caractérise notre époque, c'est donc un profond malaise. Alors, qu'est-ce qui, selon lui, bon, j'ai pris lui par exemple, il est quand même assez emblématique des pensées de notre époque, qu'est-ce qui, selon lui, génère ce malaise? Qu'est-ce qui, selon lui, génère cette incapacité de donner du sens à nos vies dans ce monde-là, à cet instant-là? Hein? Alors, j'insiste bien, parce que être incapable de vivre l'instant présent, c'est être incapable de s'inscrire dans une continuité. Hein? C'est être incapable, et c'est vrai qu'il y a, lorsqu'on parle de perte du sens ou de crise des valeurs, ce qui est en question, alors on en débattra peut-être après, hein, est-ce que c'est pertinent, est-ce que c'est pas pertinent, hein, c'est ce qui est en question, c'est notre capacité collective à nous inscrire aujourd'hui dans un récit, hein, qui s'inscrit, on va dire, dans une continuité qui est peut-être celle de la longue durée des annales, dans lequel nous nous enracinons dans une tradition et qui faisons que nous sommes capables de construire des projets collectifs, qui peuvent être des projets politiques, éminemment politiques, dans lesquels nous envisageons notre futur. Donc, la raison de cette incapacité, pour Paul Virilio, et personnellement, je pense qu'il n'a pas complètement tort, on verra, c'est que ce malaise est en fait l'envers, hein, de quelque chose qui est quand même l'envers négatif, de quelque chose qui est quand même éminemment positif, qui est l'évolution technique, qui est le progrès, on va dire en général, le progrès d'une partie de l'humanité, à savoir le progrès de la partie occidentale de l'humanité. Alors, le problème du progrès. Et donc là, on voit que progressivement, on est en train de quitter à nouveau, comme je vous parlais d'urgence en introduction, on est en train de quitter la dimension temporelle pour rentrer dans une autre dimension qui est la dimension spatiale. Hein? Donc, le problème du progrès, c'est qu'il pose la question de notre rapport à la matière, notre rapport au monde matériel, notre rapport au monde technique. Hein? C'est-à-dire, alors la technique, c'est quoi ? La technique, c'est très simplement l'ensemble des moyens, matériels ou immatériels, qui nous permettent d'atteindre nos fins, nos objectifs individuels ou en tant qu'espèce humaine. L'histoire de l'humanité, hein, l'histoire de l'humanité prise sur sa très très longue période, c'est l'histoire de la technique et plus généralement, c'est l'histoire du rapport de l'homme à la nature à travers la médiation technique. Alors, je dois faire quand même un petit peu court. En philosophie, on dit que ce qui caractérise l'homme, c'est qu'il travaille, c'est qu'il transforme la nature pour produire des biens utiles à son existence. Alors vous allez me dire, mais l'animal travaille, le castor aussi, hein, transforme la nature pour produire son habitat, pour se nourrir, les fourmis, les termites, etc. Mais ce qui caractérise l'homme et qui le distingue de l'animal, c'est qu'en transformant la nature pour subvenir à ses besoins, eh bien l'homme se produit lui-même. C'est-à-dire que l'homme va produire quelque chose que l'on appelle l'humanité. Hein? Et ce quelque chose qu'on appelle l'humanité, c'est ce qui va progressivement l'éloigner de la nature. Alors pas nécessairement dans un sens négatif, hein? Ça peut l'éloigner dans un sens positif, dans le sens de l'émancipation. C'est-à-dire que cette activité par laquelle l'homme transforme la nature, c'est une activité par laquelle l'homme va se libérer de la contrainte, va se libérer de la nécessité naturelle pour, eh bien, se donner, des objectifs qui sont des objectifs proprement humains. C'est-à-dire que dans son histoire, l'homme va décider finalement de son environnement, va décider de son organisation sociale, et cette émancipation, cet éloignement de la nature, bon, c'est pas quelque chose qui en soi est fondamentalement mauvaise. Le seul problème, pour revenir à ce qui nous intéresse, le seul problème, c'est que le développement des sciences et des techniques s'est fait dans un sens très particulier, hein, depuis la Renaissance, qui est celui d'une maîtrise toujours plus grande de l'homme sur la nature. Hein. Et c'est Descartes qui annonçait, on va dire, le grand projet de l'homme, hein, qui serait pour lui de devenir le maître et le possesseur de la nature. Donc, ce projet annoncé par Descartes, eh bien, finalement, c'est la trajectoire que nous avons prise, nous les hommes occidentaux, dans le sens où les progrès des sciences et les progrès de la technique se sont faits dans le sens d'une maîtrise toujours plus grande de la nature et de l'affirmation d'une puissance toujours plus grande de l'homme sur la nature. Et donc la logique du développement technique, ça a été finalement de développer toujours plus de puissance en oubliant l'objectif premier, qui était quand même la satisfaction des besoins. Je vais assez rapidement. Donc, cette volonté de puissance, donc, a permis, hein, la révolution industrielle, a permis un certain nombre de progrès matériels qui ont fait que, eh bien, nous avons atteint un niveau de développement, une qualité de vie, et nous avons réussi à produire une quantité de richesses comme jamais l'humanité aurait espéré la produire. Mais cette volonté de puissance a eu aussi son revers. Hein. Et ce revers, on a commencé à l'envisager, donc là je fais des grands bonds dans le temps, hein, je passe de la Renaissance au XXe siècle, ce revers de la médaille, du développement technique, on a commencé à le penser au XXe siècle, lorsque tout d'un coup l'homme s'est mis à produire des objets techniques dont il ne pouvait plus contrôler les effets dans le temps. Hein. Et cet objet technique emblématique qu'un philosophe allemand dans les années 50 a appelé le moyen sans fin, hein, sans finalité, c'est-à-dire dont on ne peut plus contrôler la finalité, une technique, on va dire, comme outil, a un objectif défini. Bon, l'homme, avec un objet particulier, à savoir la bombe atomique qu'on a lancée sur Hiroshima, a inventé un objet dont l'objectif, la finalité, n'était plus contrôlable dans le temps. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, là, avec la fission de l'atome, l'homme a effectivement atteint un niveau de puissance inégalé, un niveau de maîtrise de la nature et de la matière inégalé, mais en même temps, il a déclenché quelque chose qu'il ne contrôlait plus. Et donc, Gunther Anders, là, a dit, eh bien, on arrive, donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Anna Arendt, à ce moment-là, était la femme de Gunther Anders, donc on peut imaginer qu'ils parlaient un peu philo entre eux, avant de se séparer pour aller chacun de leur côté. Et donc, Gunther Anders dit, eh bien là, on arrive, on va dire, à une brèche dans l'histoire de l'humanité. Hein? On arrive justement, alors, pas dans un sens positif, mais tout d'un coup, avec cet objet, hein, la bombe atomique, eh bien, tout d'un coup, l'homme, dans son rapport au monde, hein, dans ce rapport au monde matériel, ne s'enracine plus dans aucune tradition. Hein? C'est-à-dire qu'avec la bombe atomique, on vivait une expérience qui n'avait aucun précédent. Et comme, à ce moment-là, on était incapable de savoir quels seraient les effets dans le futur de l'usage de la bombe atomique, on était incapable, en même temps, de se projeter dans un futur. Donc là, on était vraiment dans le temps accidentel de Viriau, Le seul problème, hein, c'est que nous y sommes toujours. Nous y sommes toujours, mais on va le voir, pour d'autres raisons et avec d'autres objets. D'autres objets, peut-être moins matériels que la bombe atomique, mais qui ont des effets aussi dangereux que la bombe atomique. Donc, dans notre histoire de cette, on va dire, démesure de l'homme, hein, il y a la bombe atomique qui, tout d'un coup, nous fige, nous, dans quelque chose, hein, d'absolument nouveau. Hein. Et cette nouveauté, hein, elle s'instaure effectivement comme un instant qu'on va dire absolument présent. L'autre grande étape, hein, de cette mutation civilisationnelle, comme dirait Michel Serres, c'est la révolution numérique. C'est la révolution numérique et la création de ce qu'on appelle le cyberespace, qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, l'homme, à nouveau, hein, se retrouve face au monstre qu'il a fabriqué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, grâce aux algorithmes fabriqués par l'homme, grâce à l'usage, on va dire, des ordinateurs, l'homme ne peut plus, n'est plus en mesure de contrôler les opérations qu'il a enclenché, par exemple, dans une salle des marchés. Hein, donc, je prends un exemple concret. Hein, on peut prendre la crise des subprimes qui a frappé l'économie mondiale. Donc, aujourd'hui, par exemple, hein, c'est un exemple, on va dire, de l'impact du numérique sur notre monde. Donc, aujourd'hui, dans une salle des marchés, le nombre d'opérations et la vitesse des opérations qui sont menées par des ordinateurs sont telles que personne, aucun être humain, n'est en mesure de contrôler ce qui se passe. Et donc là, l'homme, les hommes, hein, se trouvent face à quelque chose qui les renvoie finalement à une espèce d'impuissance. Alors j'insiste bien sur cette idée d'un plus loin puissance, puisqu'on était dans l'impuissance de l'homme, c'est que tout d'un coup, finalement, ce pouvoir que l'homme avait sur le monde, ce pouvoir qu'il avait de fabriquer le monde dans lequel il vit, tout d'un coup, là, nous sommes à nouveau dans un présent absolu, dans une situation complètement inédite, qui ne s'enracine dans aucune tradition, hein, c'est-à-dire que nous sommes, alors, à un moment qu'on pourrait... c'est ce que nous racontent les films, les livres de science-fiction, où nous sommes en train de déléguer notre pouvoir d'agir, notre pouvoir de faire, à des machines, à des ordinateurs, qui vont finalement, eh bien, élaborer un monde dans lequel, hein, dans lequel nous ne pourrons, au sens du pouvoir, au sens de puissance, nous ne pourrons plus rien. Hein. Et donc, lorsque nous disons que nous n'avons plus le temps, en fait, ce n'est pas le temps qui nous pose problème. Je parlais au départ de mon travail dans l'urgence. C'est que tout d'un coup, nous nous trouvons face à une contrainte. Et cette contrainte, c'est une contrainte matérielle. C'est une contrainte qui est là, dans le monde que nous avons fabriqué. Hein, nous sommes face à quelque chose, à des objets, à des choses, à des représentations que nous ne maîtrisons plus. Alors, donc pour certains auteurs, alors évidemment, tout cela est extrêmement passionnant. Hein, parce que, moi je vous ai parlé des salles des marchés, mais souvenez-vous, par exemple, pour la guerre du Golfe, là, j'en parle plus pas à mes élèves, parce que s'ils étaient tout petits, la guerre du Golfe, ça n'existait pas. Mais essayez de vous représenter combien c'était fascinant, cette fameuse guerre où on voyait les frappes chirurgicales en ce qu'on appelait le temps réel. Hein? Voilà. Tout d'un coup, on a inventé un concept, le temps réel. Hein? C'est-à-dire qu'à partir du moment où le général décidait de sa stratégie, déjà, on voyait les missiles tomber, et déjà, on avait l'information produite par les journalistes. Et nous, on avait déjà tout vu. Hein, c'est-à-dire presque qu'avant même que l'action se soit réalisée, au moment où elle a été décidée, déjà on avait assisté à tout. Hein? Et en plus, c'est vrai que la bonne conscience était sauve, puisque c'était une guerre qui était supposée être propre. Hein? Alors, donc là, effectivement, hein, effectivement, l'idée qui nous vient à l'esprit, c'est que, effectivement, on a l'impression que le temps s'accélère, que l'on vit dans un instant sans arrêt renouvelé, qu'on est dans l'immédiateté, l'instantanéité, hein, et que les choses ont lieu au fur et à, enfin, en même, au moment même où elles sont décidées. Hein, et on est donc dans cette fable merveilleuse du temps réel. Alors, le temps réel, qu'est-ce que c'est ? Hein, le temps réel, qu'est-ce que c'est ? Parce que moi, ça m'a fait penser aux internautes qui disent, ben, il y a le cyberespace, et puis à côté, il y a la vraie vie. Hein. Donc là, c'est pareil. Il y aurait quelque chose qui serait plus vrai que le temps, qui serait le temps réel. Le temps réel, c'est pas l'instant. Le temps réel, c'est pas l'immédiateté. Hein. Le temps réel, c'est tout simplement, eh bien, ce moment entre une action, une réaction, hein, et un effet, on va dire un effet de feedback, dans le cadre, comme moi au début, qui travaillais dans le cadre d'une échéance. Hein. Être dans le temps réel, c'est être finalement dans l'échéance. Alors, le temps est réel d'un actif sur un marché financier, ça peut être quelques secondes, c'est-à-dire en quelques secondes, une action va prendre de la valeur ou perdre de la valeur. Mais vous prenez le temps réel d'une entreprise, le temps réel d'une entreprise, c'est plusieurs mois pour produire un bien, le mettre sur le marché, le vendre, rentabiliser toute la chaîne de production, etc. Il faut plusieurs mois. Donc, vous vous rendez bien compte que le temps réel de l'entreprise, de la production, c'est pas le temps réel de la finance. Hein ? Ce qui importe, c'est d'être dans l'échéance. Hein ? Et donc, nous, finalement, puisque nous sommes aujourd'hui, finalement, saturés hein, de ces informations, de toute façon, nous sommes même au-delà de la saturation de l'information, nous sommes submergés. Hein, c'est finalement, on va dire, le propre de notre, ce qu'on appelle l'économie de l'information, l'économie de la connaissance. Hein, c'est qu'aujourd'hui, nous fabriquons plus d'informations que nous ne pouvons en consommer. Hein? Mais, bon, vous pouvez faire le parallèle, nous fabriquons plus d'argent que nous pouvons en dépenser. Ça fonctionne exactement de la même façon. Hein? Donc finalement, c'est pas pour rien que j'ai pris les deux temps réels de l'entreprise et de la finance. Le problème qui se pose à nous aujourd'hui, c'est pas le problème du temps. Hein? C'est-à-dire, bon, en plus dans l'Aveyron, vous savez très bien que le temps, on l'a. Le temps de faire son jardin, le temps de Pierre Sansot, le temps de la lenteur, le temps de boire son café tranquille au soleil, ça, on l'a toujours eu, on l'aura toujours. Le problème, c'est que nous vivons dans un monde qui est rythmé hein, par une temporalité qui n'est pas nécessairement la nôtre, qui est, il faut le reconnaître, la temporalité de notre système économique. Et la temporalité de notre système économique, c'est la temporalité d'une partie de notre système économique, c'est la temporalité de la finance. Hein? Et donc, que vous preniez n'importe quel rythme, n'importe quel domaine, aujourd'hui, il faut bien voir que tous les domaines, aujourd'hui, sont asservis par cette temporalité-là. Le domaine politique, le domaine économique, le domaine intime... Hein, tout est asservi par la logique du profit. Je dis même pas la logique de l'échange, hein, puisque l'échange en soi, il n'est pas mauvais. Mais la logique, hein, pour revenir à notre idée précédente, c'est une logique de la puissance. Hein. Le toujours plus de puissance de la technique, c'est devenu maintenant une logique du toujours plus de la puissance, mais de la puissance qui s'est transformée, on va dire, en argent. Le pouvoir, aujourd'hui, c'est le pouvoir de l'argent. Et notre expérience de la temporalité, notre perception de la temporalité, elle est, malgré nous, gouverner par cette logique-là. Cette logique-là qui va progressivement contaminer, parce que nous sommes maintenant, du fait de cette, on va dire, de cette mise en réseau mondial de tous les domaines de la vie humaine, hein, eh bien, nous sommes progressivement contaminés par cette logique de l'argent. Hein, et aucun domaine n'en est préservé. Donc, nous avons le sentiment d'être dépossédés d'une partie de nous-mêmes quand nous disons nous n'avons plus le temps. Hein? Alors, ce sentiment, hein, c'est pas que nous avons perdu que le temps, en physique, le temps il est resté identique à lui-même. Hein? On peut même dire que la description que les physiciens font de l'espace-temps, qui est plutôt vers un mouvement d'expansion, est complètement à l'inverse de ce rétrécissement que nous ressentons dans notre expérience quotidienne. Hein, c'est-à-dire que les scientifiques, eux, ont une vision de l'espace et du temps qui va à l'encontre de notre expérience quotidienne. Nous sommes dans une espèce d'asphyxie progressive de l'humain. Hein, ça, c'est. Mais ce n'est pas parce que le temps s'est accéléré. C'est pas parce que l'histoire va plus vite. L'histoire, elle va toujours au même rythme. Hein, c'est tout simplement parce que notre système d'objets, notre système matériel, le système matériel qui construit notre espace, qui construit l'espace entre les hommes et qui détermine les relations entre les hommes, ce système matériel qui se déploie à une échelle planétaire, eh bien, déploie aujourd'hui beaucoup plus de contraintes sur l'individu. La contrainte que nous ressentons, ce n'est pas une contrainte temporelle, hein, puisque, comme tu le disais très bien, hein, nous sommes toujours à même distance de notre mort, hein, que nous soyons, bon, évidemment, les Grecs mouraient certainement un peu plus jeunes que nous, si on prend la moyenne, mais Socrate, finalement, il est mort à 70 ans, ce qui est pas si mal, sachant qu'il est même pas mort de mort naturelle. Hein, donc, on peut penser que, finalement, le temps s'écoule de la même façon. Hein. Par contre, ce qui a changé, hein, ce qui a changé, on va dire, c'est ce milieu dans lequel nous vivons. Et pour nous, c'est d'autant plus dur à vivre parce que finalement, nous avons vécu dans cette idée pendant très longtemps que le progrès technique, eh bien, devrait nécessairement amener une amélioration de nos conditions de vie, hein, et aurait dû produire même une vacance du temps. Aurait dû produire davantage de loisirs, davantage de temps libre. Or, ce que nous constatons, hein, c'est qu'au contraire, hein, et pour être dans l'actualité, vous voyez bien que l'âge de la retraite, il recule. Hein, vous n'avez pas davantage de temps libre à l'échelle d'une vie, au contraire. Hein, mais, et même avec Internet, le temps se remplit encore plus d'activités. Hein, le problème, il est là. Le problème, c'est que, finalement, c'est pas notre temps qui est plus court, mais c'est que dans un instant, eh bien, il se passe dans le monde, dans nos vies, soit à l'échelle collective ou individuelle, de plus en plus de choses. Et donc, nous avons l'impression que nos vies, hein, ce qui rythme, on va dire, le temps, eh bien, tout ça se rétrécit. Ça se rétrécit pas du tout. Hein, ça se rétrécit pas du tout, mais ça se remplit davantage. Hein. Et donc, la souffrance que ressentent les individus, hein, eh bien, c'est une souffrance qui est liée à ce plein. Hein. On est dans une société, finalement, qui est une société qui est, on va dire, le revers de notre expérience du désir. C'est-à-dire que l'homme, par définition, c'est un être avide, qui désire, qui a toujours un petit quelque chose à qu'il a besoin de remplir. Et notre société, eh bien finalement, elle est là en train de le remplir de plus en plus. Hein, c'est-à-dire que notre société, elle va produire du désir, cette logique du vide, pour pouvoir, elle va produire du vide pour pouvoir toujours remplir. Hein, remplir jusqu'à ce que nous en puissions plus. Hein. Mais comme elle produit aussi du vide, comme elle produit sans arrêt des besoins et des désirs nouveaux, hein, eh bien, nous sommes dans une espèce d'insatisfaction sans fin, mais nous sommes aussi dans un remplissement sans fin. Alors, pour revenir, et je terminerai là-dessus pour qu'on puisse quand même débattre, pour revenir dans une dernière partie à Virilio, Virilio dit, donc, nous sommes dans un temps accidentel, nous sommes dans une espèce de présent sans arrêt renouvelé. Ce présent, nous le vivons plus simplement à l'échelle individuelle et à l'échelle collective. Et donc, l'expérience, on va dire, collective qui caractérise aujourd'hui notre époque, donc là, il s'inscrit complètement dans la tradition de Gunther Anders, et donc il n'y a pas tellement, on va dire, que le même modèle de pensée, finalement, est repris aujourd'hui avec la révolution numérique. Il dit, il n'est pas le seul, hein, il dit, nous vivons aujourd'hui à l'ère de la catastrophe imminente. Alors, ce concept, il est extrêmement important, ce concept de catastrophe, il est extrêmement important parce que c'est un des concepts de la pensée contemporaine aujourd'hui. L'idée de la catastrophe, qu'est-ce que c'est ? L'idée de la catastrophe, c'est tout simplement que ce qui est pourrait ne plus être. Et ce qui caractérise aujourd'hui notre humanité et la conscience que l'humanité a d'elle-même, c'est qu'elle pourrait ne plus être. Et Gunther Anders, puisque c'est lui qui a été à l'origine, on va dire, de cette pensée de la catastrophe, qui est incarnée par exemple en France par Jean-Pierre Dupuis, Gunther Anders dit « Nous sommes aujourd'hui les premiers des derniers hommes ». C'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui les premiers des hommes qui n'auront plus le temps d'être des hommes. C'est-à-dire que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, les hommes envisage non seulement que l'humanité a une fin, mais cette fin de l'humanité, c'est quelque chose qui est en permanence imminent. C'est ça qui est très important. On pense pas que l'humanité peut avoir une fin dans un millénaire, deux millénaires. Non, c'est que aujourd'hui nous vivons, malgré nous, avec cette idée que nous n'avons plus le temps et que peut-être aujourd'hui, cette soirée sera peut-être la dernière. Alors on a de la chance, on n'a pas de centrale nucléaire à côté. Mais bon, là on sait que le sarcophage de Tchernobyl, donc il y a d'énormes problèmes, que ça va recommencer. On a eu Fukushima, on a toutes les catastrophes écologiques qui ont lieu et qui sont en préparation du fait de l'activité humaine. Donc aujourd'hui, ce qui caractérise le fait que nous n'avons plus le temps, c'est pas simplement donc le fait que nous soyons bouffés par notre travail, mais c'est aussi le fait que l'espèce humaine, eh bien, est arrivée à une limite, à une limite qu'elle a elle-même instaurée. Voilà. Donc là, on va ensuite discuter. Est-ce qu'il faut être dans la catastrophe et dire bon ben c'est la fin du monde, alors allons-y. Ou est-ce que, comme Jean-Pierre Dupuis lui défend ce qu'il appelle un catastrophisme éclairé, il dit, eh bien, parce que nous sommes capables de penser la catastrophe et l'imminence de la catastrophe, nous sommes aussi capables d'empêcher la catastrophe. Voilà. Donc lui, il est plus mesuré, mais quand même, je vais terminer là-dessus, l'idée de la catastrophe, c'est quelque chose maintenant, qui façonne nos représentations. Le monde peut s'écrouler. Avant, bon alors c'est vrai que, on va dire, l'événement emblématique, c'est Hiroshima, c'est le 11 septembre, mais nous vivons aujourd'hui, même dans l'Aveyron, puisque nous sommes quand même, on va être contaminés par l'ensemble de représentations qui façonnent l'inconscient collectif au niveau planétaire, nous sommes quand même dans cette idée que la catastrophe est possible, que nous pouvons être à nouveau dans l'urgence, pour revenir au sujet, et dans la nécessité matérielle. Et j'insiste bien en disant qu'on est parti de l'idée d'une urgence temporelle pour revenir à ce qui est l'urgence fondamentale de l'homme, qui est celle de la satisfaction des besoins. Voilà. Donc je vous laisse la place.